concept qui, dans nos différentes traditions religieuses, a une place importante. Aujourd'hui, et depuis un certain nombre de siècles, nous essayons également de se rappeler que l'idée messianique ou la conception du messianisme n'est pas si ancienne que cela. Le terme messie vient de l'hébreu mashua, qui veut dire roi, celui qui a reçu une onction, ou ce qui a reçu une onction. Dans la Torah, dans la première partie donc de la Bible, dans le Pentateuque, pouvait recevoir une onction le grand prêtre, devait recevoir une onction le grand prêtre, le tabernacle, donc le lieu où avait, qui était considéré comme étant le lieu central du culte hébreu, et également dans le Deutéronome, mais pour les biblistes, le Deutéronome n'est pas tout à fait de la même époque que les premiers livres, également dans le Deutéronome, le roi. Ainsi, celui qui était considéré comme le mâchoire, c'est-à-dire loin, celui qui avait reçu l'onction, pouvait être aussi bien un prêtre, un homme de la tribu de Juda, ou un objet. On est très très loin de l'idée du messianisme. Et dans la Torah, dans le Pentateuque, il n'y a pas un verset qui nous annonce qu'un jour, il y aura un Messie, ou une époque messianique. Et il n'y a pas de texte clair qui nous invite à penser à une situation de paix et d'harmonie et d'équité entre tous les peuples. La Torah a bien d'autres préoccupations que cela. Et cette idée n'avait pas encore, lorsque les premiers écrits ont été couchés sur parchemin ou sur tout autre objet sur lequel on écrivait, cette idée n'avait pas encore pris corps. Mais les rabbins ont quand même essayé de déterminer des allusions. Ainsi, l'une de ces allusions se trouve dans un poème, l'un des premiers poèmes bibliques, qui est le Cantique de la mère des gens, Exode 15. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, lorsqu'il a passé la mer des gens, appelée communément la mer rouge, lorsque la mer s'est refermée derrière le peuple d'Israël, engloutissant l'armée de Pharaon, mais pas Pharaon, alors, le texte nous dit « Az Yashir Moshe », ce qui est traduit par, habituellement par « Alors Moïse chanta ». Mais lorsque l'on considère l'hébreu, on devrait dire « Alors Moïse chantera ». Et les rabbins ont dit « Mais vous voyez, ce n'est pas une allusion, c'est la preuve qu'il doit y avoir un moment où Moïse, pendant lequel Moïse chantera plus tard, et qu'il n'a pas chanté alors ». Ou plutôt, il n'a pas chanté seulement pour ce moment-là, de délivrance, mais il chantera bien plus tard. Et quand chantera-t-il ce chant, à nouveau? Eh bien, ce sera quand l'ère messianique, où le Messie sera arrivé, seront arrivés. Deuxième allusion, encore plus curieuse celle-là, c'est toujours dans un chant. C'est toujours dans un texte poétique, et les textes poétiques ne sont pas là pour nous délivrer des messages clairs, ils sont allusifs, ce sont des textes qui ne peuvent pas être pris au premier degré, mais au second degré. C'est de la poésie, donc c'est de l'art. Et l'art n'est pas là pour nous décrire la réalité des choses telle qu'elle est, mais telle qu'elle est ressentie. Et dans le deuxième passage sur lequel les rabbins se sont agrippés pour affirmer que l'idée du messianisme est déjà incluse dans le Pentateuque, ce texte est extrait du livre des Nombres, au chapitre 24, lorsque Balaam, ce prophète, prophétise, déclame au sujet d'Israël, attiré par le roi Balak, qui voulait, lui, que Balaam maudisse le peuple d'Israël avant de lui livrer bataille pour renforcer l'ardeur de ses troupes. C'était déjà quelque chose de commun à cette époque que d'essayer de faire que les troupes sachent qu'elles combattaient pour la juste cause, même si tel n'était pas le cas. Et Balaam dit, « Je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. Je le distingue, mais il n'est pas encore proche. Un astre s'élance de Jacob et une comète surgit du sein d'Israël qui écrasera les sommités de Moab. » C'était Balaam qui recevait en contrepartie la contrepartie de ce qu'il avait demandé. Et là aussi, les rabbins disent, vous voyez, je le vois, mais ce n'était pas pour ce moment-là. Ce sera pour le moment où celui-ci viendra. On a donc, dans le Pentateuque, des textes clairs quant à celui ou ce qui doit être loin, qui doit recevoir l'onction, Mashiach, Messie, mais aucun texte clair concernant le messianisme, concernant la venue d'un Messie ou la venue d'une ère messianique. En fait, l'onction conférait à celui qui la recevait un rôle politique, le roi, ou un rôle religieux, le grand prêtre, ou une importance essentielle et centrale pour le peuple d'Israël comme objet de tabernacle. Il y a des allusions qui sont évidentes pour certains, mais qui ne le sont pas pour d'autres. Et puis les textes bibliques ont été écrits, et on en arrive à la deuxième partie de la Bible, la partie des prophètes. Pourquoi ? Il faut essayer peut-être de se rappeler de ce qui s'est passé dans l'histoire juive. Il y a eu, après la mort de Moïse et la succession qui a été assurée par Josué, une vie très difficile des tribus qui s'installaient ou que se réinstallaient en Canaan. Et puis peu à peu, ce groupe disparate de 12 tribus a commencé à vouloir une centralisation, une union, de telle sorte à pouvoir résister aux migrants de cette époque. On a eu les juges qui peu à peu ont assuré ce rassemblement des tribus, et puis on a vu l'émergence de la royauté, et en particulier celle du second roi d'Israël, David. Pour ceux qui ont lu l'histoire dans le livre de Samuel et dans le livre des rois, ils savent que la royauté de David et de ses successeurs n'a pas été une royauté extraordinairement paisible. Au contraire même, David a été un grand guerrier, et pendant toute son existence, il a guerroyé aussi bien contre les populations étrangères, contre les voisins, qu'à l'intérieur même de son peuple et à l'intérieur même de sa famille. Néanmoins, l'image qui ressort dans la tradition de David est celle d'un roi fédérateur qui installe un pouvoir central fort, qui atténue les tensions entre les tribus, entre le nord et le sud, et qui essaye de gérer politiquement son peuple de la façon la moins inéquitable possible et même la plus équitable qu'il pouvait en être à cette époque. De plus, il élargit les frontières et le texte nous dit que pendant une grande partie de l'existence de sa royauté, il y eut la paix avec l'extérieur. Cette image du rassembleur, cette image de celui qui apporte la paix, cette image de celui qui ne pressure pas trop la population, ce qui ne sera pas le cas de son successeur immédiat Salomon et de ses successeurs plus lointains, cette image fait que plus tard, peu à peu, va se créer en quelque sorte la conception que David a été le roi le plus parfait que le peuple d'Israël ait connu. Bien entendu, si on lit le texte, on peut avoir des doutes, mais cette image va peu à peu prendre le pas sur toute considération historique. Il faut dire qu'à cette époque, rares sont ceux qui possèdent chez eux un livre d'annales, et que donc l'histoire et la façon dont cette histoire est représentée est transmise de génération en génération, de bouche à oreille. Et vous savez ce qu'il en est lorsque cette transmission est une transmission orale. Cette transmission orale va accentuer certains traits et va faire sombrer dans l'oubli de nombreux éléments liés au sujet concerné. David va devenir, en quelque sorte, l'image la plus parfaite de la royauté, l'image la plus parfaite du roi. On aurait pu penser que ce serait Salomon, qui était doté, d'après toujours les textes bibliques, d'une sagesse qui dépassait en loin celle de ses contemporains, d'une capacité de compréhension non seulement des êtres humains, mais également de toute la gent animale qu'il côtoyait, donc un homme au savoir très certainement supérieur à celui de son père. Mais Salomon a commis de grandes erreurs dans sa vie, et si le début de sa royauté a été une royauté paisible, la fin de sa royauté a mené, comme vous le savez bien, au schisme entre les tribus du Nord et les tribus du Sud. Et donc, l'image qu'il a laissée a été une image ternie par de nombreux éléments de sa vie et par ce qui s'est passé après sa mort. La figure emblématique va donc être David. Il n'est pas le premier roi qui a reçu l'onction, puisque c'est Saül, mais il a en quelque sorte été celui qui a lié cette onction avec un souvenir d'une époque en quelque sorte bénie, d'un Eldorado à cette époque, enfin pour ses successeurs, d'un Eldorado qui ne sera plus connu par la suite de ses rois qui vont se succéder et qui vont aboutir malheureusement à la destruction, enfin à une époque où le peuple, le royaume du Nord sera déporté et où Jérusalem sera détruite avec le temps à l'intérieur. Cette destruction de Jérusalem est un traumatisme colossal. Mais paradoxalement, ce traumatisme colossal va avoir comme conséquence une série de prophéties, un ensemble de prophéties, de second Isaïe, Ézéchiel, la fin du texte de Jérémie, et puis certains des petits prophètes, dont très certainement les écrits datent de la période post-destruction du premier temple de Jérusalem. Ceci va créer un bouleversement spirituel et culturel dans la communauté juive. La destruction du temple de Jérusalem aurait pu sceller la fin de l'aventure du peuple juif. Mais paradoxalement, cette destruction va en quelque sorte le libérer d'un ancrage géopolitique trop affirmé. Dans un premier temps, lorsqu'on lit les textes qui sont attribués à la période postérieure à la destruction du premier temple de Jérusalem, donc entre cette destruction et le retour, et la construction du second temple de Jérusalem, on s'aperçoit que ces textes sont des textes qui expriment une espérance, un espoir de retour à un passé que l'on, bien sûr, idéalise, à un passé de paix, à un passé d'harmonie, à un passé d'équité. Et c'est à ce moment-là que les grands textes que nous connaissons comme étant les textes prophétiques parlant du messianisme sont très certainement pensés, exprimés et mis par écrit. Ce sont les grands textes de Michée, ce sont les grands textes d'Isaïe, ce sont les grands textes d'Ézéchiel. Ces textes vont être d'abord allusifs. Ils ne vont pas parler du Messie, ils vont parler de l'espérance d'un retour à la case Israël, Canaan, Judée, comme on veut, avec un retour du peuple sur sa terre, et un retour du peuple sur sa terre qui va s'accompagner d'une harmonie sociale et d'un retour vers Dieu, d'un retour vers le Créateur. Et c'est dans cette période-là, postérieure à la destruction du premier temple, et très certainement concomitante avec la construction et le début d'existence du second temple de Jérusalem, que cette espérance de retour pour tous, de centralité de Jérusalem et d'une ère de paix et d'harmonie va véritablement voir le jour. C'est donc la réponse, l'idée messianique serait donc une réponse à un traumatisme profond ressenti par le peuple d'Israël lors de la destruction du premier temple de Jérusalem et lors de la déportation de la population hors de Judée, dans sa grande majorité, pour pouvoir continuer à affirmer une fidélité à Dieu qui avait déjà pris Abraham hors de son pays, et une fidélité à l'alliance qui avait été contractée non seulement par les patriarches, mais par toutes les générations par la suite, qu'il avait en quelque sorte confirmé génération après génération. Comme vous connaissez certainement l'histoire de cette époque, vous savez que c'est une histoire qui a été extrêmement tourmentée. Le retour n'a pas été un retour aussi paisible qu'il était espéré. La reconstruction du deuxième temple de Jérusalem n'a pas apporté la paix. Et même politiquement, les tensions ont été colossales. Les populations ont été parfois asservies ou dominées par des royautés ou des pouvoirs extérieurs. L'exemple type, c'est toute l'histoire autour de Hanouka et de Maccabée. Et peu à peu, on a vu la déliquescence de la société israélienne. Et peu à peu, on a vu l'émergence de différentes tendances au sein de la population juive, dont la tendance dite des pharisiens, des perouchim, ce sont soit les séparés, soit ceux qui font le pérouche, c'est-à-dire l'explication du texte biblique, et eux vont prendre cette idée messianique, l'inscrire comme une des idées fondamentales de la tradition juive, en faire en quelque sorte un des points d'ancrage de la pensée juive. Ils vont dire, Dieu a créé le monde, il s'est exprimé, il a donné un enseignement au peuple d'Israël. Pourquoi ? Pour que cet enseignement puisse servir au peuple d'Israël d'apporter pour sa propre société et peut-être pour les autres également la paix, l'harmonie et l'équité. Lorsque l'on regarde le Sidour, donc le livre de prière, on s'aperçoit que les trois qualificatifs essentiels qui définissent Dieu, c'est Dieu le Créateur, Dieu source de la révélation et Dieu source de la rédemption pour laquelle l'homme lui est associé. C'est cette idée qui naît que l'individu devient l'associé de Dieu dans la rédemption à venir, c'est-à-dire dans le mieux-être à venir que chacun de nous, ou chacun des individus de cette époque et de nous aujourd'hui, avons la capacité d'introduire dans le monde qui existe. Et c'est à ce moment-là que les rabbins vont émettre donc cette pensée qui pour eux est évidente, puisque Dieu a créé le monde, puisqu'il a donné un enseignement, ce monde a un but, cet enseignement est un moyen. Le but du monde, c'est d'arriver à la perfection. Le moyen, c'est de suivre l'enseignement donné. Et donc, la finalité de l'existence, en quelque sorte, juive, puisque à cette époque, c'est, il y en a d'autres, bien entendu, mais sur le plan monothéiste, c'est la seule. La finalité de l'existence juive, c'est d'apporter un mieux-être constant au monde et à la société, afin qu'elle aboutisse plus tard à une ère de paix, d'harmonie et d'équité. Alors, on arrive donc à cette période où dans les textes, dans la liturgie, vient se nicher cette idée qui, à l'époque biblique ancienne, à l'époque où la Torah, où les premiers livres de la Torah ont été écrits, était totalement inconnue. Il y a donc un renversement, en quelque sorte, de l'histoire, d'une certaine façon, ou un renversement de la vision de l'histoire, qui est, certes, nous avons connu des malheurs, ces malheurs étaient là pour peut-être nous raffermir, mais ces malheurs étaient là également pour nous inviter à surmonter les déceptions, à surmonter les brisures de notre histoire, afin de pouvoir encore mieux réaliser l'espérance finale. Bien entendu, des textes bibliques nombreux sont cités par les rabbins, entre autres le chapitre 9 et le chapitre 11 d'Isaïe, ce fameux chapitre où un rameau de la source de Jessé naîtra, sortira, fleurira, et on verra plus tard le loup et la brebis paître ensemble. Le tigre reposera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bélier vivront ensemble, et un jeune enfant les conduira. Vision tout à fait idyllique de la société humaine, de l'environnement de l'individu et de l'humanité en général, vision idyllique qui est mise en évidence par la tradition rabbinique depuis son émergence. Et il continue avec ses phrases de Osée, disant « Les enfants d'Israël se remettront à chercher l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. » Liaison entre l'existence de Dieu et la royauté de David, qui est la véritable royauté, puisqu'elle est de la tribu de Juda, qui doit amener le peuple d'Israël à revenir sur sa terre et à se, en quelque sorte, se réunir. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu Rome. Rome est arrivé, et à nouveau, le deuxième temple a été détruit, et la dernière révolte contre les Romains, celle de Bar Corba en 135 de notre ère, est totalement anéantie. La majorité des Juifs sont expulsés de la Judée, qui prend le nom, les Romains lui donnent le nom de Philistie, d'où la Palestine d'aujourd'hui, et on en arrive à cette période où tout ce qui formait le substrat et le fondement de la tradition juive à l'époque du Temple a disparu. Reste le judaïsme rabbinique, qui est celui qui s'exprime aujourd'hui à travers différentes tendances, et qui affirme donc une foi total en la venue du Messie ou de l'ère messianique. À cette époque, les deux termes sont utilisés de façon totalement interchangeable, les deux ayant autant de valeur l'une que l'autre. En 135, Rabbi Akiva, qui est un des grands maîtres de la tradition rabbinique de cette époque, considère que le chef de la révolte Bar Corba et le Messie, malheureusement cette révolte est anéantie comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les derniers soubresauts d'une première époque de l'idée messianique qui voulait que le Messie soit également un chef politique. On va peu à peu s'en éloigner dans la tradition juive, même si on fait toujours allusion à la dynastie d'Avidi, il va néanmoins se faire que l'aspect politique va passé d'importance et que par contre l'aspect de l'ère messianique sous sa vision d'ère de paix et d'ère d'harmonie et d'équité va devenir la plus importante. Le Messie dans la pensée rabbinique postérieure à la destruction du deuxième temple et postérieure à l'anéantissement de la révolte de Bar Corba est clair. Le peuple d'Israël reviendra sur sa terre, il y aura un roi très certainement descendant de David, le Messie lui-même peu à peu va devenir lui aussi descendant de David, le peuple sera réuni sur sa terre, il sera libéré de tout joug étranger, et il inaugurera une ère de paix et d'harmonie et de productivité agricole et de recherche intellectuelle féconde. Ça, c'est le cœur de la pensée rabbinique en ce qui concerne le messianisme. Et cette spiritualisation du Messie est très certainement la conséquence de la perte de toute capacité politique de la part du peuple juif. Jusqu'alors, il y avait des représentants politiques du peuple d'Israël en Judée, il n'y en a plus. Il y a donc une idéalisation du messianisme, il y a donc une spiritualisation en quelque sorte du Messie, qui devient un archétype absolu de la perfection. On parle de lui, il devient un personnage presque concret, mais que les rabbins placent en quelque sorte en dehors du monde de la réalité. Comment le sait-on? Eh bien, un texte rabbinique nous dit qu'il y eut plusieurs créations avant la création du monde, ou il y eut plusieurs créations juste avant quoi le Shabbat n'entre, c'est-à-dire que lorsque Dieu avait terminé sa partie de la création, puisque nous considérons que nous sommes ses associés pour la parfaire jusqu'à sa perfection, entre cette premier temps et l'arrivée du Shabbat, certains textes nous disent que Dieu avait créé le Messie et avait donné son nom, mais personne ne le connaît. On parle de lui, il devient donc un personnage, un archétype, il devient presque un personnage que l'on pourrait qualifier presque aujourd'hui de mythique. Pourtant, les rabbins affirment qu'il sera un être humain, fils d'une femme et d'un homme, et certains textes nous disent même qu'il arrivera un jour où il mourra et que ses descendants prendront sa suite, comme les rois meurent et leurs successeurs prennent leur suite. Et puis on arrive à l'époque du Moyen-Âge, où là aussi, il y a de très nombreux textes qui parlent du Messie, mais qui parlent du Messie d'une autre façon, avec une autre importance. Ils lui accordent en quelque sorte une importance apocalyptique. Ils insistent sur les désordres qui auront lieu avant la venue du Messie, et sur le retour à l'ordre que la venue du Messie instaurera. Ces textes, aujourd'hui, ne sont plus des textes fondamentaux. Néanmoins, on voit un nouveau stade de l'idée messianique dans la tradition juive, qui est celui que le Messie n'est plus tellement un idéal, mais il devient un moment de l'histoire, un moment de l'histoire qui vient en quelque sorte panser les plaies de ceux qui auront souffert auparavant. Et on peut, là aussi, comprendre cette évolution. Le peuple d'Israël, si on regarde son histoire, avait une histoire chaotique, c'est le moins que l'on puisse dire. Peut-être qu'effectivement, les premières idées du messianisme sont les conséquences des premiers désordres de l'histoire juive, que ce soit la chute du premier temple ou la chute du second temple. Mais c'est lorsque l'on regarde l'histoire juive qui se déroule après la chute du second temple de Jérusalem et après l'expulsion des Juifs de Judée, on s'aperçoit que cette histoire, elle est faite de moments lumineux et elle est faite de moments d'une extraordinaire, effrayante obscurité. Pogroms, massacres, ghettos par la suite, une suite de malheurs et en même temps une suite de moments lumineux. Et il y eut des moments lumineux dans l'histoire juive, qui en quelque sorte donnait un souffle à un certain moment à ceux qui avaient été maltraités par l'histoire. Alors il est bien évident que l'on intègre ce que Ézéchiel entre autres avait parlé, Gog et Magog, et on dit qu'il va y avoir des moments de trouble, des moments de tension intense entre les populations du monde. Et à ce moment-là, le Messie viendra, rétablira la paix, rétablira l'harmonie, rétablira l'équité. Ça, cette vision, en quelque sorte cette approche du Messie qui, entre guillemets, apaise ce qui a été troublé auparavant, cette vision est une vision, disons, du Moyen-Âge ou du post-Moyen-Âge. Mais on retrouve chez les penseurs les plus rationnels, tels que par exemple Maïmonide au XIIe siècle, l'expression que le roi Messie sera descendant de David, il réinstaurera cette royauté, il sera un homme doté, disait Maïmonide, de grande sagesse et de grande intelligence, il reconstruira le temple, il réunira les exilés et il réinstaurera les lois de la Torah. C'est intéressant de constater que cela voulait dire qu'à cette époque, les Juifs n'étaient pas très pratiquants. Donc, quand on a l'image que les anciens étaient très pratiquants et que les modernes le sont moins, ces textes nous invitent à modérer nos expressions. S'il fait tout cela, dit Maïmonide, alors ce sera la preuve qu'il est le Messie et il n'aura pas besoin d'exprimer sa qualité messianique par l'introduction de gestes miraculeux. Et il décourage, ainsi que de très nombreux rabbins, il décourage tout calcul spéculatif pour connaître la date de la venue du Messie. Parce que il y a eu constamment une tendance dans la tradition juive, parmi certains qui seront qualifiés de kabbalistes, il y a eu une tendance d'essayer de calculer quand le Messie devait-il venir. Devait-il venir à une année shabbatique, une année jubilaire? Y a-t-il dans les textes des allusions à sa venue? Et comme les lettres ont une valeur numérique, on peut calculer donc quand il devait venir. Il y avait cette appréhension, cette capacité ou cette volonté de déterminer une date, et Maïmonide dit, tout calcul spéculatif pour connaître la date de la venue du Messie est blasphématoire. Au XIIIe siècle, la Kabbale donne au mécanisme une coloration différente. Elle dit, tout être humain possède des étincelles divines. Et puisque nous possédons tous des étincelles divines, le Messie sera celui qui saura libérer en quelque sorte de leur gangue toutes les étincelles divines qui parsèment le monde à travers tous les êtres qui l'habitent. Et à nouveau, on voit des mouvements messianiques se lever ici et là, comme cela a été le cas pendant toute la période de notre histoire, mais nous le verrons tout à l'heure. À la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, on a donc cette idée, la même qui s'exprimait par les paroles de Maïmonide. Et puis on en arrive à l'ère moderne, à l'ère, disons, actuelle, où le messianisme va rester un messianisme religieux, mais va devenir aussi quelquefois un messianisme politique. Et l'expression de ce messianisme politique, qui va prendre certains éléments du messianisme traditionnel, le retour à Sion, eh bien c'est le mouvement sioniste qui va développer toute une pensée par laquelle il ne va pas forcément parler du Messie dans les termes de la tradition rabbinique ou de la tradition comme Maïmonide le faisait, mais va utiliser les mêmes termes, laïciser en quelque sorte, dédiviniser, pour inciter le peuple d'Israël, ou du moins ses contemporains, à faire un retour, à faire une alia et à venir en Israël. Ceci a réussi d'une certaine manière, mais le peuple d'Israël restant pour une partie relativement importante, aujourd'hui toujours majoritaire, peut-être pas demain, à l'extérieur d'Israël, ce messianisme politique n'a pas encore abouti à ses fins. Quels furent les mouvements messianiques à travers l'histoire? Eh bien, ces mouvements messianiques sont très anciens. Le premier que l'on pourrait presque qualifier ainsi, c'est le premier retour après la destruction du premier temple de Jérusalem, au début, ou plutôt à la fin du 6e siècle avant notre ère, dans les années 500 avant notre ère, 519-518. On parle d'ailleurs, dans certains textes bibliques messianiques, de Zerubbabel, celui qui a ramené, ou celui qui ramènera le peuple d'Israël là où il devait être. Et c'est un personnage historique qui a eu un rôle charismatique et qui a fait penser à certains qu'il serait peut-être le premier Messie. 10 ans avant Jésus, il y a un homme qui s'appelle Judas le Galiléen, dont on trouve la trace chez certains historiens, qui refuse d'obéir à Rome et qui est martyrisé avec ses fidèles. Et à peu près à la même époque, un juif d'Égypte, avec 30 000 fidèles, va jusqu'au mont des Oliviers et veut forcer une entrée à Jérusalem. Les Romains s'y opposent et éliminent ce groupe qui aurait été composé d'une centaine de milliers de fidèles. Il y a Bar Corba dont j'ai parlé tout à l'heure, en 135 de notre ère. En 448 toujours de notre ère, un juif de Crète dit « Dieu vous appelle à rejoindre la terre et à vous réunir. » Il ordonne à toute sa communauté de se présenter, et puis comme rien ne va comme il le désire, il ordonne à tout le monde de se jeter à l'eau, ce que font ses fidèles et lui-même. Ce sont des mouvements messianiques dont certains, qui ont trouvé également des disciples à la fin du siècle dernier. Et puis, à la fin de la période des croisades, il y a énormément de personnages qui se disent les messies. Il y en a en 1096, en 1120, en 1150 à Bagdad, en 1172 au Yémen, en 1240 en Allemagne, etc., etc., jusqu'au XVIe siècle. Et là, il y a un grand mouvement messianique avec David Rouveni, Salomon Molcho et Shabbatai Tzvi, 1660, qui va bouleverser la vie de certaines communautés juives. Et qui est peut-être, et il est intéressant de regarder quelles sont les dates et les relations historiques, qui est peut-être, au Shabbatai Tzvi, la dernière manifestation de cette conséquence du traumatisme de l'expulsion d'Espagne et de cette dispersion des Juifs qui venaient de la partie ibérique européenne. De même, il y a plus tard, en Europe centrale, des pogroms terribles, et au XVIIIe siècle, vous avez l'émergence d'un mouvement pseudo-messianique avec Jacob Fromm. Et, sans vouloir du tout négativiser ce que le mouvement Lubavitch est, il y a eu, il y a quelques années, une flambée messianique où on disait que Schneerson, leur dernier grand personnage qui est mort, je crois, il y a 4 ou 5 ans, était le Messie. Le Messie est arrivé. Et c'est peut-être là aussi la conséquence d'un autre traumatisme qui est celui de la Shoah. Si on regarde l'histoire juive, on va s'apercevoir qu'il y a un lien indissociable entre la pensée du messianisme, l'émergence de mouvements de textes parlant du Messie, l'émergence de mouvements messianiques et des traumatismes historiques, que ce soit la destruction du premier temple, la destruction du second temple, Bar Corba, les pogroms ici et là, les croisades, l'expulsion d'Espagne et la Shoah au milieu du siècle dernier. L'idée messianique, qui avait été une idée marginale dans la Bible, est devenue un élément central de la pensée juive à l'époque rabbinique, s'est exprimée à travers différents mouvements messianiques pendant l'histoire juive. Tous ont eu une fin bouleversante et bouleversée, tous ont disparu. Je ne sais pas ce qu'il en sera du mouvement de Lubavitch, mais l'histoire est lente à se manifester. Voilà, si on veut résumer très brièvement, l'idée messianique dans la tradition juive. Mais ce qui est intéressant, ou ce qui m'a intéressé ce soir, au-delà de ce toute cette perspective que je n'ai fait qu'effleurer dans le temps, c'est de se demander quelle est la situation aujourd'hui et comment concilier l'espérance messianique avec l'amitié judéo-chrétienne, les relations entre le monde, à l'intérieur du monothéisme, entre le monde chrétien, juif et musulman, et puis peut-être la mondialisation, qui est celle de l'existence de notre société. Et j'ai trouvé des textes qui m'ont fortement intéressé et que je vais vous livrer maintenant. Ce sont des textes relativement récents. L'été dernier, dans la publication de la Conférence centrale des rabbins américains, donc c'est une publication trimestrielle qui circule donc, qui est écrite donc à l'intention des rabbins et des communautés libérales réformées aux États-Unis, il y a eu une étude par un rabbin des relations ou des points de convergence et des points de divergence entre judaïsme et chrétienté en général. Et il a recherché des textes qu'il a trouvés et qui sont les suivants. Je vous les livre à votre réflexion. Un rabbin qui s'appelle Itzik Greenberg a écrit en 2004, donc vous voyez c'est relativement récent, publié aux États-Unis. Dieu s'est adressé aux non-juifs à travers une excroissance du judaïsme. C'est-à-dire qu'il considère que le christianisme est une extension du judaïsme pour le monde non-juif, dans le sens où quand on regarde le christianisme avec un œil juif, on se dit qu'il y a des points de convergence évidents, il y a des textes communs évidents, mais il y a des divergences d'idées à partir des mêmes textes qui ont été complétés par ce que le monde chrétien appelle la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament. Et Itzik Greenberg ajoute l'expression du pluralisme, que le christianisme étant une extension du judaïsme pour le monde non-juif, est l'expression du pluralisme divin. C'est quand même quelque chose de très nouveau. Enfin, du moins, quand je l'ai lu, pour moi, c'était très nouveau. On peut le vivre dans l'amitié judéo-chrétienne, parce que jamais il ne viendrait à l'idée d'un juif à l'intérieur de l'amitié judéo-chrétienne, disons de l'interreligieux, de dire à celui qui n'est pas juif, quel qu'il soit d'ailleurs, votre religion ne vaut rien. Votre foi est nulle et non avenue. Votre croyance est caduque. Si un juif discute avec un non-juif et s'il veut être sincère avec lui-même, il doit accorder une valeur à ce que l'autre croit, pense, dit et fait. En conséquence de quoi, il ne peut pas dire raisonnablement « je possède la vérité ». Mais à ce moment-là, s'il ne peut pas le dire, c'est que l'autre possède aussi une part de vérité. On ne va pas commencer maintenant à les évaluer. Et c'est que l'autre donc possède une part de vérité et que lui, le juif, donc moi, je possède aussi une part de vérité. Mais si j'affirme que Dieu s'est révélé au peuple d'Israël en lui donnant son enseignement, ce qui se traduit en hébreu par Torah, ça veut dire que ce texte ne possède pas peut-être toute la vérité et que éventuellement Dieu peut avoir d'autres alliances, et qu'il y a donc un pluralisme divin. Dieu cherche à élargir, dit toujours ce rabbin Greenberg, cherche à élargir le nombre de canaux d'alliance vers l'humanité sans jamais en fermer un. C'est quand même une expression qu'on avait rarement lue à travers des textes rabbiniques. Le rabbin Greenberg est un rabbin traditionnaliste et n'est pas un rabbin libéral, conservative, reconstructionist, ou c'est un rabbin traditionnaliste. Ce qui montre quand même une réflexion humaine et théologique importante. Mais il n'est pas le seul. Un autre rabbin, il est pas traditionnel, Michael Dussoron, a publié un livre la même année, en 2004. Il faudrait peut-être voir ce que cette année avait, ce qui s'était passé durant cette année 2004. Et il dit la chose suivante, ce qui pourra peut-être vous intéresser. Mon affirmation, dit-il, est que l'enseignement chrétien de l'incarnation de Dieu en Jésus est l'intensification de l'enseignement juif de la présence de Dieu au sein du peuple d'Israël, en concentrant cette présence en un seul juif, Jésus, plutôt que de laisser cette présence diffuse au sein du peuple. C'est-à-dire que l'un des reproches que font traditionnellement les juifs traditionalistes aux chrétiens, c'est de dire, moi, juif, je ne peux pas penser l'incarnation divine en un être. Et ce que dit ce rabbin du Chauvron, il dit dans le fond, lorsque la Torah dit « Ils me construiront un temple et je résiderai parmi eux », et lorsque la tradition rabbinique a parlé de la présence de Dieu sous le terme « résidence », « Ils me feront un temple ou un lieu consacré, v'sharchanti v'toham, et j'habiterai parmi eux, je résiderai parmi eux ». Et la présence divine en hébreu s'appelle Shekhinah. C'est la même racine. Et il dit, dans le fond, l'incarnation dans la tradition chrétienne est une densification de la Shekhinah divine. Les juifs affirment que la présence divine est diffuse au sein du peuple. Les chrétiens affirment que la résidence divine, en quelque sorte, est incarnée en Jésus. L'un est la densification de l'autre, mais il n'y a pas une contradiction fondamentale entre les deux, et on ne peut pas opposer aussi facilement l'incarnation chrétienne et la présence divine juive. L'incarnation, dit-il, n'est donc, dit le rabbin qui cite ces rabbins-là, qui s'appelle rabbin Meckenburger, l'incarnation n'est donc pas un argument pour séparer judaïsme et christianisme. Elle est absolue en Jésus pour le chrétien, elle est diffuse au sein du peuple pour le juif. Et il continue ce rabbin en disant la chose suivante. Après la destruction du temple, le judaïsme a été renouvelé en devenant un judaïsme rabbinique d'une part et le christianisme d'autre part. Et ce christianisme est devenu une religion indépendante. Cette séparation, ajoute-t-il, a permis ou obligé ou rendu inévitable la pérennité du particularisme juif. En quelque sorte, le christianisme s'est détaché du judaïsme et le judaïsme s'est détaché du christianisme pour des raisons théologie, évident, le christianisme a été vers le monde, le judaïsme a été en quelque sorte vers lui, et cette séparation a permis d'une part au christianisme d'exister, et d'autre part au judaïsme de le faire de même, et de renforcer en quelque sorte sa particularité, son particularisme par rapport au christianisme. Les deux religions ont chacune exprimé une tendance différente. Le judaïsme a mis l'accent sur la pratique personnelle et collective, les mitzvot, pour rendre la présence de Dieu en quelque sorte diffuse au sein du peuple d'Israël, et a laissé un tout petit peu de côté, ou a du moins donné moins d'importance à des thèmes tels que la grâce, ressentis comme trop chrétiens. Et le christianisme a abandonné la référence aux mitzvot, au commandement pratique, considéré comme faisant allusion à un monde trop charnel. Je vous lis les textes tels qu'ils ont été écrits, mais qui nous permettent peut-être d'envisager le dialogue entre judaïsme et christianisme sous un autre angle, et sous un angle, disons, raisonné de part et d'autre. Puis ces différences se sont accentuées jusqu'à oublier les points communs. Et ce qui nous rapproche les uns des autres, mais on est peut-être dans le deuxième maintenant, ou peut-être dans le troisième temps, qui est chacun est chez lui, mais commence à reconnaître véritablement l'autre. Et ce qui s'est passé entre le judaïsme et le christianisme, c'est également passé au niveau de l'islam, vis-à-vis et du christianisme et du judaïsme. L'islam a mis l'importance, a mis une importance absolue sur le texte, le Coran, qui devient fondamental. Mais, alors que le judaïsme s'était détaché du christianisme, que le christianisme s'était détaché du judaïsme, et à un moment a voulu devenir le véritable Israël, le véritable Israël, il en est revenu de cela, l'islam affirme être l'aboutissement du judaïsme et du christianisme, et que dans le fond, tout le monde étant, l'univers étant islam, étant donc considéré comme soumis à Dieu, la finalité, c'est que tout le monde devrait devenir un jour ou l'autre frère en islam, frère en soumission à Dieu. Et l'islam a exagéré certains traits. Certes, il y a l'incarnation de Dieu en Jésus, pour les chrétiens, ce qui semble pour le juif difficilement compréhensible, acceptable, ça c'est une question presque subjective, mais ça l'est également pour l'islam. Et pourtant, quand on regarde ce que l'islam est devenu, et ce qu'il exprime aujourd'hui, on s'aperçoit que Mahomet est presque divinisé, puisque ces caricatures sont considérées comme blasphématoires. Or, on ne peut blasphémer que de Dieu. Il y a donc une divinisation, en quelque sorte, de Mahomet, même si elle n'est pas exprimée dans les mêmes termes que dans le christianisme. Il n'y a pas d'incarnation divine en lui, mais il y a une qualité de sainteté qui lui est accordée qui le met presque à l'égal de Dieu. On voit donc une autre forme de conception de l'individu et de sa relation avec Dieu s'exprimer à travers l'islam. L'islam a mis aussi l'importance sur des commandements qu'il considère comme essentiels, et sur un texte qu'il considère comme incontournable. La grande différence entre, on peut parler de l'Église, qui a cette capacité de réunir des conciles pour édicter des nouvelles approches du texte biblique et des points de théologie, on peut citer le protestantisme qui accorde à une relecture du texte autant d'importance qu'au texte lui-même. On voit dans la tradition juive toute une homilétique qui est faite de telle sorte à pouvoir donner au texte un corps que quelquefois il n'a pas, et tout un système juridique qui se permet quelquefois de très grandes libertés par rapport au texte lui-même, l'un étant par exemple les détail de l'application de la loi d'un fils rebelle qui normalement devrait être lapidé. Et le mode d'application de ce commandement est exprimé de façon tellement rigoureuse dans la tradition rabbinique, que cela rend impossible, impensable, caduque en quelque sorte la loi, impossible de la mettre en application. Mais l'islam n'en est pas encore là, concernant par exemple les questions de la lapidation d'une femme adultère. Il n'en est pas encore là, il n'en est pas encore à édicter des règles qui rendent pratiquement impensable et impossible un tel acte qui malheureusement a failli se dérouler et peut-être se déroule encore dans certains cas. Il a donc gardé le concept des mitzvot, moins développé. Il a gardé presque le concept d'une incarnation divine à travers un livre et à travers un personnage. Mais il abandonne en quelque sorte le concept messianique à travers une personne. Et il ne voit de ce concept messianique que une possibilité, c'est que tout le monde adhère aux mêmes principes fondamentaux de la soumission à Dieu, c'est-à-dire de l'islam. On voit donc que dans le monde, dans la relation du monde chrétien, judéo-chrétien, il peut y avoir l'expression de d'un certain renouveau de réflexion sur des thèmes essentiels de la théologie de l'autre, pour montrer que cette théologie n'est pas fondamentalement étrangère à soi, que l'on peut la comprendre même si on ne la partage pas, que l'on peut raisonnablement la penser même si on ne la partage pas dans le fondement de sa croyance. Parce que si elle est raisonnablement pensée et interprétable par l'autre, elle ne l'est pas par soi, à partir de ses propres prémices théologiques. Ce qui fait que le messianisme de demain ne sera peut-être pas, ou l'idée de l'ère messianique ne serait peut-être pas celle d'une ère où nous serons tous les mêmes, où pour les juifs on sera tous juifs, pour les chrétiens on sera tous chrétiens, pour les musulmans on sera tous musulmans, et pour les bouddhistes, ils ont énormément de points communs avec nous, ils sont tous bouddhistes. Et on en revient à cette vision du prophète Isaïe, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Il n'a pas dit le loup deviendra un agneau ou l'agneau deviendra un loup, en oubliant l'aspect carnassier de cet animal. Il a dit les deux resteront ce qu'ils sont, mais à la différence d'être des ennemis, à la différence du monde dans lequel nous sommes où l'un est le prédateur de l'autre, l'un et l'autre pourront vivre côte à côte. Le lionceau avec l'agneau et avec l'enfant qui le conduira. Chacun sera à sa place. Chacun sera ce qu'il doit être. Kaufmann Koller, en 1918, écrivait « La spécificité juive dans sa vocation à l'universel et la conscience de cette vocation parle de Dieu » comme ayant distingué d'autres peuples à travers certaines spécificités. Et le texte d'Amos qui était lu tout à l'heure disait « Pour moi Israël, vous êtes comme les Éthiopiens, n'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte, les Philistins de Kaphtor et Aram de Tyre ?» Ce qui veut donc dire que Dieu a une relation avec les uns comme il a une relation avec les autres. Et Léovec disait « Je ne peux concevoir l'ère messianique comme une ère où chacun sera ce qu'il doit être et ne ressemblera pas à l'autre. » Le messianisme ne doit pas compenser un déficit, un mal-vivre présent, car à ce moment-là, il cesse d'être une espérance pour un monde meilleur et à venir, et devient un remède momentané devant un sentiment d'impuissance. C'est pourquoi cette espérance doit être constante. Ce qui était exprimé par un rabbin du 19e siècle, les chassidim de Rabbi Moshe de Rotzedov, discutaient les moments de la venue du Messie, et leur maître leur dit, même si nous étions la 999e année du 6e millénaire, c'est bien entendu le 7e millénaire, celui du Shabbat, donc de la cessation, donc de la paix. Et même si nous étions le crépuscule du dernier jour de l'année et que le Messie ne soit pas encore là, je ne désespérerai pas, disait-il, et j'attendrai encore sa venue plutôt que de discuter des moments où il viendra. Et si la terre, pour reprendre tout à l'heure, Léobet, si la terre sera un jour remplie de la connaissance de Dieu, j'y crois, disait-il, dans le respect des identités propres à chaque peuple. C'est pourquoi nous ne serons pas un, mais nous serons les uns à côté des autres.
remercie infiniment, Rabbi François. C'était très très clair, j'espère pour vous aussi. C'est une grande leçon d'histoire, une grande leçon de Bible, une grande leçon d'humanité, et vraiment pour l'amitié judéo-chrétienne, entre autres, on ne pouvait pas espérer mieux que cela à écouter, je crois que dans le cœur de chacun, ça a dû être la joie. Oui ? Alors maintenant, à vous la parole. Et qui la désire ? C'est difficile de prendre la parole après.
Alors, j'ai bien sûr écouté avec beaucoup d'attention et d'admiration tout ce que vous avez dit. Il y a quelque chose en particulier qui a retenu mon attention. Vous avez parlé de tous ces textes d'espérance qui avaient été écrits dans la période post-destruction du premier temple, en disant justement que c'était après tous ces malheurs, toutes ces difficultés, que ces textes avaient pu être écrits, et que là, il y avait justement un élan vers l'avant, un élan d'espérance. Je me place maintenant dans notre situation actuelle des religions dans le monde, dans la société, où je crois qu'on assiste à une peur ambiante, des difficultés, et que ça soit pour toutes les religions du monde. Et du coup, tout cela entraîne un repli identitaire qu'on peut constater dans différents courants de nos religions, avec un retour aux origines. Et du coup, là, devant les difficultés, devant le malheur, on a l'impression qu'on va plutôt en arrière au lieu d'aller vers l'avant. Et j'ai l'impression qu'actuellement, devant la peur, finalement, on oublie l'espérance. L'espérance qui avait pu être insufflée à cette époque. Alors peut-être que je reviens un petit peu sur une note pessimiste, excusez-moi, mais c'est vrai que ces replis identitaires me parlent beaucoup. Et voilà, j'ai l'impression que c'était un retour en arrière et pas en avant vers l'espérance dont vous parliez.
Alors, si on regarde ce qui s'est passé dans les deux siècles qui ont radicalement changé la société occidentale dans laquelle nous vivons, on s'aperçoit qu'il y a eu des messianismes non religieux et que peut-être ces siècles ont été marqués par plusieurs types de messianisme. Il y a eu, sans que je veuille les accabler parce que je pense qu'ils ont fait un travail extraordinaire de libération de l'individu, il y a eu la philosophie des Lumières qui a dit la raison est en fait ce qui nous permettra d'arriver à une paix absolue. Lorsque tous les hommes seront raisonnables, lorsque tous les individus seront raisonnables, eh bien la paix s'instaurera sur Terre parce que la raison est la base de l'équilibre et de la paix. Ça a été un premier type de messianisme. Puis il y a eu les messianismes politiques, le marxisme en a été un messianisme dévoyé, le nazisme en a été une autre forme, satanique, mais c'était quand même... Il y avait une vision d'une société idéale. Et ce qui s'est passé, c'est... Il y a eu les effondrements de ces messianismes-là, y compris d'ailleurs d'une certaine approche de la philosophie des Lumières, qui fait que la raison et la capacité de choix de l'individu ne mènent pas toujours à ce qui est le mieux pour lui-même et pour la société. Mais ces messianismes-là ont été peut-être un petit peu les fossoyeurs d'un messianisme religieux ou d'un messianisme spirituel. Et aujourd'hui, lorsque l'on parle du messianisme et lorsque l'on parle de l'ère messianique, nous avons des références de connotation qui nous amènent à prendre en compte ces différents messianismes politiques et dévoyés qui ont été exprimés au cours du siècle dernier. Et la tentation de certains est de revenir avoir été une société idéale. Et c'est là où la transmission a quelque chose de magnifique, de merveilleux et de dangereux. On dit toujours, en tout cas dans la communauté juive, les arrière-grands-parents étaient tous religieux, ce qui est un non-sens absolu. Ils ne l'étaient pas tous. En tout cas, pas forcément tous les miens. Et donc, on a toujours l'impression, et beaucoup ont l'impression, que d'être fidèle à la lettre, à ce qui était exprimé il y a un certain nombre d'années ou de siècles, peut leur permettre de revenir à un état, disons, d'équilibre ou de pureté spirituelle. Malheureusement, c'est l'expression d'une faiblesse et pas d'une force. Et quand le retour à hier est un retour frileux, parce qu'on n'ose plus aujourd'hui considérer le monde et l'humanité avec les outils qui sont ceux de notre tradition, eh bien, cela effectivement nous ramène bien loin en arrière. Mais ces phénomènes ont été des phénomènes constants de l'histoire. Quand on les vit soi-même, ils nous font très peur. Mais si vous regardez l'histoire aussi bien au sein de la chrétienté, de l'islam et du judaïsme, il y a constamment eu ces régressions vers un hier idéalisé et qui ont abouti quelquefois à la disparition d'un certain nombre de tendances. Et ensuite d'ouverture à nouveau lorsque le monde était perçu comme moins dangereux. Malheureusement, nous vivons, on n'y peut rien, c'est le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde instable, un monde d'instabilité, mais un monde dans lequel il y a une conscience de l'autre qui s'est élargie au monde, enfin au globe terrestre dans son intégralité. Alors, cela nous fragilise parce que cela nous montre quelle est notre réelle situation et notre réel poids dans l'histoire et dans la vie. Mais cela aussi peut nous donner la capacité d'agir non seulement pour le monde d'ici, mais pour le monde de là-bas, et peut-être d'aller à contre-courant de ceux qui régressent vers un monde d'hier, refusant le monde de demain. Mais ça, c'est chaque individu, on est le maître. La tradition juive dit que nous sommes les meshutafim, c'est-à-dire nous sommes les associés de Dieu. Ce qui veut dire que l'on peut s'appuyer sur lui. Celui qui croit en son existence peut s'appuyer sur lui. Je ne parle pas de est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, est-ce qu'il m'écoute, est-ce qu'il ne m'écoute pas. Mais je parle de façon très égocentrique et égoïste. S'il m'a donné un message, ou s'il a donné à mes ancêtres un message, si ce message a encore une raison d'être aujourd'hui, ce message m'invite à aller vers l'autre. Les textes que j'ai lus tout à l'heure sont d'une extrême clarté. Plus je m'isolerai de l'autre, plus je m'isolerai du monde, plus je m'isolerai de son message. Mais pour en arriver là, je crois que soit il faut une dose de naïveté, soit il faut une dose d'espérance. Et j'opte pour le deuxième énoncé. Et cette dose d'espérance, elle m'a été donnée à travers ma tradition par cette idée messianique qui, quand on essaie de l'analyser historiquement, a été le fruit des malheurs du peuple juif, dans un premier temps. Et a toujours été, en quelque sorte, à réinsuffler dans la pensée juive, après des périodes d'une extrême brutalité. Je crois que nous serons capables de réinsuffler cela, peut-être pas dans ma génération, peut-être pas la génération suivante, mais celle d'après. Parce que le traumatisme, nous l'avons vécu il y a un peu plus de 60 ans. Et ce traumatisme, il faudra un temps pour non pas en tirer les conséquences, parce que ça voudrait dire qu'il allait utile à quelque chose, mais pour le prendre en compte dans notre appréciation de l'histoire et du monde à venir. Dans la tradition juive, on appelle le monde à venir Haolam Haba, le monde qui vient. Et dans certaines expressions de la foi juive, on dit « je crois en l'avenir et même s'il ne vient pas, je continuerai à l'attendre ». À un moment, j'avais pensé commencer par le Messie, c'est comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde en a entendu parler, mais tout le monde attend de le voir. Et nous sommes un peu dans cette situation. La seule grande différence, et c'est pourquoi je ne vous l'ai pas dit, c'est que pour moi, ce n'est pas la même chose. Et je continue à essayer d'exprimer l'espérance, même si elle est ténue. Et d'ailleurs, il y a un livre de Ben Montflet, qui est un poète et un écrivain, il est à Genève, qui s'intitule Nous de l'espérance. Et si nous avons une raison d'être, c'est peut-être pour exprimer cette espérance encore aujourd'hui, en dépit de ce qui se passe. Et même s'il ne vient pas, en dépit de cela, je l'attends.
Je voudrais vous dire que votre réflexion sur les convergences en tant que chrétien me compte de joie. Parce qu'on fait sauter un certain nombre de verrous qui, pour moi, étaient incontournables pour tous les chrétiens qui réfléchissent à ces problèmes. Et ce qu'il évoque deux grands penseurs, qui ne sont pas plus beaucoup de moi, c'est Maritain, qui écrit de très belles pages de l'humanisme, avec ce principe fondamental de distinguer pour l'humanisme. Et Massignon, qui écrit des pages extraordinaires sur la spiritualité de l'islam. Cela dit, ma question est la suivante. Vous êtes dans les grands traumatismes du peuple juif que vous avez cité, vous parlez des croisades. Je voulais savoir à quoi vous êtes allié.
Lors de la première croisade en particulier, les communautés juives du bassin rhénan ont été totalement décimées. À la fin, donc la fin du XIe siècle. Il y a eu des massacres de communautés entières, les croisés allant lutter contre les infidèles, les juifs étaient des infidèles. Et il y a eu un traumatisme à ce moment-là, très profond dans la communauté juive. Il y a des prières que nous disons encore aujourd'hui le jour de Kippour et le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, qui ont été écrits, qui sont des textes absolument splendides, et qui évoquent le jugement dernier, en rappelant qu'il y a des jugements annuels à Rosh Hashanah, entre autres. Mais il y a eu des communautés juives qui ont été totalement massacrées, et dans le bassin rhénan, il y avait à cette époque une floraison d'écoles rabbiniques, et le bassin rhénan était le lieu central de la spiritualité et de la pensée juive, qui a été en très grande partie, qui a été effacée de la carte. C'est une partie sombre des croisades. Il y en a eu d'autres, mais dans la communauté juive, c'est une réalité historique malheureuse, tragique. Je veux dire tragique pour les uns et pour les autres, tragique pour nous, parce que il y a eu la perte de grandes personnalités et de communautés, d'hommes, de femmes et d'enfants. Tragique, je pense également pour les chrétiens, parce que la croisade a été dévoyée dans son esprit. Mais c'est quelquefois beaucoup plus tard qu'on s'en rend compte. Le bassin rhénan était le centre intellectuel de la tradition juive avant que celui-ci ne soit entièrement ibérique, espagnol, enfin espagnol mais sous domination musulmane. Et après ces croisades, il y a eu des expressions messianiques dans les années début du 12e siècle. Il y a eu des explosions de messianisme sporadique ici et là. Et peut-être que toute la floraison de la Kabbale, bien qu'elle se soit manifestée dans le sud, plus au sud, est aussi, d'une certaine façon, incidemment, la conséquence de ces moments-là, parce que pour la communauté juive, même séfarade, donc espagnole, la connaissance de ces massacres et de la disparition de communautés a été ressentie comme étant quelque chose de très grave. Mais ça fait partie de notre histoire. Et en dépit de cela, je continue à m'accrocher à ces textes que je vous ai cités tout à l'heure et qui pour moi ont été, je veux dire, assez révélateurs et dans mon approche, la mienne aussi, de la tradition chrétienne.
Je voulais compléter ce qu'a dit la pasteur Charlotte Gérard, peut-être en apportant un éclairage positif. Enfin, moi, il m'a semblé positif parce que moi, je suis plein d'espérance, pas simplement d'espoir, mais d'espérance. Et je voudrais le resituer effectivement à l'aune des traumatismes que vous avez évoqués, en particulier le dernier, qui est une catastrophe pour le peuple juif, qui est la Shoah, mais qui est aussi un traumatisme profond pour les autres croyants, dont les chrétiens. Moi, je suis chrétien, baptisé, catholique. Je crois que la recherche exégétique qui avait été menée depuis la fin du XIXe siècle dans l'Église catholique, principalement, qui suivait ce qui avait été fait aussi dans le procès estantique, a été complètement boostée par la Shoah, parce que la communauté catholique s'est trouvée profondément interrogée par ce qui s'était passé. Et cette écriture, mais le père Barthélemy pourrait le dire beaucoup mieux que moi, parce qu'il l'a vécu lui-même dans la façon dont il a été enseigné et formé en tant que prêtre, qui était interdit aux laïcs, est devenue complètement ouverte. Et aujourd'hui, je parle pour l'Église qui est la mienne, il n'y a de cesse de nous appeler à lire la parole de Dieu, à l'approfondir, à la méditer. Et qui dit parole de Dieu dit bien sûr la première et la seconde alliance. Ça, c'est permanent, et je crois que c'est un texte, y compris la démarche dans laquelle ont engagé aujourd'hui les évêques, l'ensemble de la communauté catholique en France, c'est ça, c'est retourner à la source, approfondir ça. La deuxième chose, c'est que dans cette même démarche, donc, il y a aussi le Nouveau Testament, auquel nos frères juifs avaient fait tout ce travail avant. Cette année, dans quelques mois, on retourne, le pape qu'on a déclaré, à un travail beaucoup sur l'apôtre Paul, autour de tout ce qui touche à l'apôtre Paul. Alors si l'apôtre Paul n'est pas au cœur du protestantisme, moi, ça me remplit d'espoir de voir ces chemins qui sont au-delà de marques de féminisme ou autre. C'est des choses assez concrètes. Et puis la troisième chose, vous avez évoqué le rationalisme et la chute peut-être des communismes. C'est vrai que les communismes ont trouvé leurs racines dans la pensée de Kant, de Hegel, etc., les Lumières. La dernière encyclique du pape, l'espérance sauve, je crois, c'est celle-ci. C'est justement toute une analyse de la raison et comment lui, en tant que prof de théologie, quoi qu'on puisse dire des positions, être en désaccord avec ce qu'il dit, et justement la nécessité de lier la foi et la raison. On ne peut pas y avoir de foi sans raison. Enfin, moi, je crois que ces choses-là m'ont plus personnellement en tant que chrétien d'espoir parce qu'elles montrent qu'on est en chemin tout ensemble. Elle nous présente ici d'espoir, peut-être, elle est aussi la démonstration. Moi, je suis plutôt vraiment orienté vers une espérance profonde.
Merci Jean-François. Jean-François, notre journaliste qui nous permet justement toujours de nous réunir, de nous faire parler ensemble. Et ça, c'est une grande chance que nous l'ayons avec nous. Merci de ta réflexion. Mais... Thank you.
J'adhère tout à fait à ce qui est dit. Je crois que lorsque nous aurons la capacité les uns et les autres de nous confronter d'abord à nos textes et ensuite de nous pencher sur les textes fondamentaux des autres avec sans un regard d'a priori, mais au contraire avec une écoute de ce que l'autre en déduit, de ce que l'autre en tire et de ce que l'autre en saisit, je crois que nous aurons fait de grands pas. Je dois dire que lorsque j'ai lu ces textes sur la présence divine diffuse au sein du peuple d'Israël et la question de l'incarnation, je me suis dit, mais bien sûr, ils ont raison. Mais ça n'avait jamais été dit de cette façon. Que l'on puisse le dire aujourd'hui est quelque chose que je trouve tout à fait novateur, à la limite extraordinaire. Cela sera peut-être le langage commun dans 50 ans ou dans un siècle. On ne se rappellera pas de cela. Mais que l'on puisse aujourd'hui avoir un dialogue entre juifs et chrétiens qui ne soit pas un dialogue de supérieur à inférieur, quel que soit le personnage que l'on est soi-même, que l'on puisse avoir un dialogue ouvert, est une chose tout à fait extraordinaire. Qu'il puisse y avoir des associations interreligieuses est un élément qui, il y a 50 ans, 40 ans, était totalement inimaginable. Or, cela se passe aujourd'hui. Et cela ne se passe pas seulement ici, mais cela se passe ailleurs. Alors, évidemment, il reste encore de grands pas à franchir. Et d'une certaine façon, il faut les franchir ces pas avec une extrême humilité vis-à-vis de l'autre et une extrême confiance vis-à-vis de soi. Ça peut sembler totalement contradictoire. Mais je ne peux pas dialoguer en tant que juif si je ne le suis pas profondément moi, et si celui qui est l'objet, qui est mon interlocuteur dans ce dialogue, qu'il soit chrétien, musulman ou bouddhiste, n'est pas ce qu'il doit être lui. Il y avait une parole qui n'avait rien à voir avec l'interreligieux de Menachem Mendel de Kotz, que je cite souvent parce que je la trouve extraordinaire, qui dit la chose suivante. Si je suis moi parce que tu es toi, alors tu n'es pas toi et je ne suis pas moi. Mais si je suis moi parce que je suis moi et que tu es toi parce que tu es toi, alors je suis moi et tu es toi. Et cette parole, elle devrait être en exergue en quelque sorte là où le dialogue s'instaure. C'est-à-dire que je ne peux pas être un juif désécurisé pour parler à des chrétiens désécurisés. Nous ne pouvons parler ensemble, en quelque sorte, que si vous êtes pleinement vous, et je suis pleinement moi. C'est-à-dire que nous avons notre identité chevillée au corps. Mais que cette identité ne doit pas nous empêcher de pouvoir écouter l'autre. Mais je ne peux l'écouter que si j'ai des oreilles qui savent écouter. Donc il me faut l'humilité pour l'écouter, mais en même temps un sentiment de sérénité et d'ancrage dans ma tradition qui soit un sentiment plein. Ce n'est pas contradictoire, c'est indispensable. Mais les amitiés judéo-chrétiennes sont aussi d'une certaine façon la conséquence du traumatisme de la Shoah. C'est l'isberge. C'était après, même si l'enseignement du mépris, même si certains textes étaient antérieurs, cela a malheureusement été l'une des conséquences d'un malheureux traumatisme, enfin un traumatisme terrible. Cela n'efface pas ce qui s'est passé avant, mais cela me fait dire que, en dépit, l'espérance reste, malgré tout, un élément il ne peut pas être abandonné parce que l'histoire prouve que, à la suite de traumatismes, certains individus ont réfléchi. Pas tous, mais certains.
Oui, Rabbi François, moi j'ai envie de dire quelque chose parce que ce que vous avez dit concernant ces rabbins qui ont parlé, moi c'est pour ma plus grande joie, parce qu'il y a longtemps que j'ai dit ça, mais je n'ai jamais vraiment osé les dire devant tout le monde. Je l'ai dit à mon mari, et bien sûr, nous en avons...
Il a
pas répété. Mais nous en avons beaucoup parlé ensemble. Je me suis permis d'en parler au pasteur Pivot, ou au pasteur Grossin, mais j'avoue que même à des rabbins, je ne me suis... Et non, on n'avait pas eu cette occasion ensemble. Les Shabbats sont trop courts. Mais c'est vrai que je ne me serais peut-être même pas permise de dire que j'ai pensé cela. Et je suis d'autant heureuse d'entendre, effectivement, que d'autres ont pensé cela, et un peu comme pour légitimer ma pensée, parce que moi je ne suis pas rabbin, je suis que ce que je suis. Et c'est vrai que, vraiment, lorsqu'on arrive à être soi-même, à ce moment, il peut se passer un dialogue très fort avec l'autre. Ça, je l'ai compris très tôt, très jeune, avec des traumatismes, oui. Et puis, ça rejoindra peut-être nos prochaines séances avec la psychanalyse. Mais il est sûr que apprendre à se connaître, oui, effectivement, ça aide considérablement à savoir d'abord qui l'on est soi, comment l'on fonctionne, et puis d'apprendre à pouvoir écouter l'autre et le connaître. Donc, tout ce que vous avez dit, c'est magnifique. Merci de l'avoir dit. D'autres questions, Norbert ? Il faut que tu te rapproches, s'il te plaît.
Merci. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est... Je voulais dire que je pense que Jules Isaac et les autres fondateurs d'amitié judéo-chrétienne seraient profondément heureux et comblés ce soir. Je pense qu'on a vécu un moment absolument exceptionnel. Trop souvent, on a, les uns et les autres, creusé des fossés entre nous, des fossés qui ont été mortifères pour tout le monde. Ce soir, vous nous avez montré que être associé individuellement à Dieu, ça peut consister concrètement à transformer des fossés mortifères en un réseau de canaux. J'ai vraiment beaucoup aimé cette notion, un réseau de canaux qui communique entre eux, permettant une conjugaison des alliances. Et la notion de réseau de canaux me fait penser à ce que dit un pasteur, un professeur de théologie protestante, je le cite souvent ici, André Gounel, qui dit que la voix de Jésus est une voix qui n'exclut aucune autre voix. Et je trouve qu'il y a une réelle similitude. Puis entendre un rabbin nous dire qu'il n'y a pas de... des rabbins, parce que vous rapportez des propos d'un autre rabbin, qu'il n'y a pas de contradiction fondamentale entre la Shérina et l'incarnation, c'est pour moi un véritable bonheur. Un bonheur parce qu'on voit que chacun peut vivre sa théologie en comprenant, en respectant pleinement la théologie de l'autre. Comprendre la théologie de l'autre, c'est refuser de considérer que sa propre théologie a plus de valeur que celle de l'autre. Donc refuser de vouloir convertir l'autre. Et puis refuser la complaisance, faire en sorte que nos rencontres soient des moments de confrontation pacifique, confrontation de nos identités. Merci beaucoup.
Faire une référence sur la tour de Babel aussi, cette référence biblique, parce que quand les hommes ont tous la même langue, quand ils ont subitement la même pensée, ils bâtissent un empire. Et cet enseignement de la tour de Babel, c'est que Dieu a préféré la diversité des hommes. Je crois que là, on a une réflexion à faire sur ce qu'a été cette histoire de la tour de Babel. Le messianisme dans toute sa beauté, c'est la diversité. Le monothéisme, nos religions monothéismes, nous devons certainement maintenant, après ces traumatismes, notamment ceux de la Shoah, mais toutes les désillusions des messianismes politiques, les religions monothéismes doivent se soigner de la pensée unique. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant 2000 ans, les différentes religions monothéistes ont eu très très peur du respect de la diversité, de la pluralité. Comme si la diversité et la pluralité pouvaient remettre en question nos systèmes de croyances et nos valeurs et nos dogmes. Je crois que la nouvelle maturité de nos différentes confessions, c'est cette reconnaissance de la diversité ne portera pas atteinte au monothéisme. Parce que j'entends déjà certains adversaires de la pluralité me dire « Mais attention, vous vous attaquez aux fondamentaux du monothéisme. » Je crois que croire en un Dieu unique ne veut pas dire une pensée unique. Et qu'il y a eu pendant des siècles cette dérive qui était de dire un Dieu, donc une théologie, donc une référence, donc une pensée. Et les religions monothéistes de demain, nous ne sommes pas là pour bâtir des empires, pour convertir dans la pensée unique, mais découvrir ce que vous voulez indiquer, le respect de la diversité qui ne porte pas atteinte à nos identités théologiques.
Vous savez, lorsque l'on considère l'histoire de nos différents mouvements religieux, on s'aperçoit dans le fond que la diversité a toujours été refusée lorsqu'il y avait la relation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique, ou lorsqu'il y avait le désir que le pouvoir religieux devienne aussi le pouvoir politique. Et c'est peut-être un des bienfaits de la laïcité que d'avoir fait comprendre à ceux qui voulaient lier pouvoir religieux et pouvoir politique qu'ils auraient beaucoup plus de pouvoir d'ailleurs en abandonnant le pouvoir politique, mais en même temps cela a enlever à nos organismes représentatifs respectueux de la théologie, de leur théologie, uniquement de la leur, à ces organismes, la possibilité de vouloir régenter le monde. Et s'il y a un danger aujourd'hui, c'est lorsqu'une expression religieuse cherche à vouloir régenter l'autre. Malheureusement, on le voit ici et là, et cela se ressent différemment dans nos traditions, dans nos environnements religieux. Il y a des tendances chez chacun d'entre nous, plus ou moins importantes, qui cherchent à vouloir réinstaurer un soi-disant royaume divin. Alors que si Dieu nous a mis sur cette terre, c'est pour que nous la régissions, qu'il en soit le roi, mais qu'il ne la régente pas.
Cette phrase est belle et vraie, et à méditer. Hein. Qui désire encore parler ou poser des questions ou... Il faut vous venir. C'est vraiment une question peut-être trop simpliste, mais après ce merveilleux exposé que vous venez de nous faire, je me pose une question, mais il n'y a peut-être que moi qui me la pose. Que devient Jésus là-dedans? Que doit-on faire de Jésus, puisqu'il n'est pas le Messie, puisque, d'après ce que vous nous avez dit, je vais me faire lyncher en sortant. Non, mais sérieusement, comment nos frères juifs voient-ils Jésus? Et cette nouvelle ère messianique que vous nous avez dit, l'avenir, le loup sera à côté de l'agneau, mais l'un ne deviendra pas l'autre.
Nous, Jésus, encore à Noël, le dernier Noël, on nous a dit, Jésus est le Messie est venu, et vous, vous l'attendez. Moi, ça me pose question, mais je sais peut-être mal poser ma question. Tout le monde arrive.
Mais ne soyez pas perplexe, madame. Mais vous avez raison. Pour vous, Jésus est le Messie. Et c'est très bien ainsi. Pour vous. Pour moi.
Je me donne beaucoup d'importance de pouvoir décider qui est le Messie et qui ne l'est pas. Mais disons, pour ma tradition ne l'a pas considéré ainsi. Peut-être qu'un jour, il viendra et puis il me dira « tu t'es trompé ». Peut-être qu'un jour il viendra et vous dira « vous avez un peu exagéré ». Mais, en attendant, permettez-vous de croire qu'il est le Messie et permettez-moi de croire que le Messie est encore à venir et que je ne connais pas son nom. Mais si vous vous permettez de le croire et que vous le croyez profondément, cela sera votre identité et votre relation avec Dieu en passant par lui. Et si cela n'est pas pour moi la même relation, eh bien je tisserai ma relation avec Dieu en accord avec ma tradition. Et peut-être qu'un jour, on se retrouvera, vous et moi, ou nos descendants, marchant l'un d'un côté de l'autre, et l'un dira à l'autre, tu te rappelles, ton ancêtre avait posé cette question au mien, et dans le fond, peut-être ni l'un ni l'autre n'avait raison. Mais, en attendant, soyez vous et laissez-moi être moi.
Je crois que Marie-Lou, vous allez être satisfaite et vous avez bien fait de poser votre question. Et oui, parce que c'était une belle réponse et encore plus claire pour vous, peut-être. Certains qui avaient dit. Mais oui. Bien sûr. Aurait osé poser. Irma là.
Je prends tout mon courage à deux mains. Et le micro arrive. Je voudrais d'abord me présenter. Depuis plus de 50 ans mariée à un Français, d'origine fille d'un pasteur et allemande. Il y a des choses ce soir qui m'ont... La première chose que je voudrais dire, j'ai presque l'impression que je suis celle qui vous est le plus reconnaissante pour cette soirée, pour tout ce que vous avez dit. La deuxième chose qui m'a beaucoup frappée, vous avez eu plusieurs choses dites que je trouvais magnifiques. Pour moi aussi, Dieu, le danger, c'est toujours que l'être humain est tenté de ramener Dieu à ses limites humaines. Mais vous avez dit quelque chose dont je suis tellement d'accord avec vous. Il y a en chacun, qui que ce soit, une étincelle. Et c'est une merveille extraordinaire, quoi qu'on ait. Il y a un autre mot que vous avez beaucoup employé, c'était le mot espérance. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait commun. Pour terminer ce soir, je suis étonnée, ou m'est devenu clair, un fait historique, très triste pour nous. Finalement, le christianisme, comme aujourd'hui aussi l'islam, a versé beaucoup, beaucoup de sang. Soi-disant pour ramener les gens sur le bon chemin, ou je ne sais pas comment dire. Et quand vous regardez, vous, les Juifs, vous ne l'avez jamais fait. En plus, c'est une différence assez extraordinaire. En plus, un miracle, qu'on peut vraiment dire, vous avez été tellement disséminés, pourchassés. Vous avez tellement dû souffrir, on a essayé de vous éliminer, et avec une force absolument extraordinaire. Heureusement, vous êtes toujours présent. Je demandais une fois à un pasteur allemand, je lui disais carrément, que j'étais très jeune encore, écoutez, nous ne pouvons tout de même pas dire que la vérité est chez nous. Et il m'a tout de suite répondu que j'avais parfaitement raison. La vérité, au fond, ce que vous avez dit aussi, est partout. Chacun là où il est né, dans la religion dans laquelle il est né, qu'il essaye de la pratiquer pour le mieux possible. Et je crois que ce n'est qu'avec le respect pour l'autre et la compréhension qu'on arrivera un jour vraiment à se promener dans des prières ensemble.
Alors, madame, je vous remercie, mais je vais d'abord vous apporter une certaine désillusion. Alors, c'est vrai que depuis 20 siècles, nous n'avons pas versé beaucoup de sang pour propager notre théologie. Mais si vous regardez la Bible, nos ancêtres l'ont fait. Ils ont, eux aussi, perpétré des massacres. Ils ont, eux aussi, éliminé des civilisations, même si celle-ci était très locale. Il y a des textes dans la Bible, y compris dans le Pentateuque, qui sont effrayants. Et qu'on ne peut comprendre, enfin, que l'histoire nous fait comprendre et nous incite à une certaine modestie, ou une modestie certaine. Lorsqu'il y a eu, quelle que soit la religion, juive, chrétienne, musulmane, bouddhiste, hindouiste, lorsqu'il y a eu la volonté de l'expansion théologique et l'expansion politique, ces expansions ont toujours été liées à des exactions, à des massacres et à des destructions. Et si vous regardez, il y a certains versets dans Deutéronome qui disent « Lorsque vous serez arrivé dans une ville et que cette ville sera restée idolâtre, vous éliminerez la population et vous détruirez toutes leurs possessions, y compris vous raserez la végétation parce que quelquefois elle était déliée de culte. » Exactement la même chose. Malheureusement. Pendant de très nombreux siècles, nous n'avons pas eu le pouvoir. Et ce fut une bénédiction. Parce que nous n'avons pas commis trop d'exactions. Et en tout cas, pas de massacre collectif. Nous étions la minorité partout. Nous ne pouvions pas. Là, je le dis de façon un peu négative. Mais je pense que cette existence de minorité nous a fait oublier que nos ancêtres, eux aussi, ont commis des actes que nous considérerions aujourd'hui comme hautement répréhensibles. Et doit nous amener à réfléchir à nous-mêmes et à ne pas condamner l'autre parce qu'il l'a fait uniquement, mais à se demander pourquoi cela a-t-il été fait. Je ne pense pas que ce soit la volonté divine que d'éliminer les concurrents ou les expressions théologiques qui ne sont pas conformes à celles du lieu. Ces étincelles que nous possédons tous, et ça c'est la tradition, l'ancienne tradition juive, hein, c'est la Bible. Je créerai l'homme à mon image, c'est le reflet divin que nous avons chacun entre nous, c'est une autre façon de le dire. Cette étincelle, elle est en chacun des individus. Certains d'entre nous arrivons à la faire briller au-delà de nous, d'autres, quelquefois, arrivent même à l'éteindre. Espérons que ceux-ci seront de moins en moins nombreux et que les premiers seront de plus en plus nombreux. Même s'ils ne croient pas en l'existence de Dieu, ils considèrent l'autre comme son égal, comme leur égal, ce serait déjà un énorme pas en avant. Et ce qui s'est passé dans l'Europe ou dans le monde occidental depuis un certain nombre de décennies, nous permettent de croire que cela est néanmoins possible malgré toute l'histoire qui nous montre que cela n'était pas le cas. Mais je pense que nous ne pouvons pas nous départir de l'espérance que cela puisse devenir la règle, parce que si nous croyons sincèrement que chaque être humain a en lui un reflet divin, cette simple affirmation devrait m'amener à considérer l'autre comme mon égal. L'expression de la vérité, elle est, dans la tradition juive, on dit, seul Dieu peut dire je suis vérité. Ce que l'on retrouve d'ailleurs dans vos écrits. Mais on le trouve également dans nos textes rabbiniques. Ce qui veut donc dire que nous ne possédons pas la vérité. Et que le premier pas de l'entendre les uns avec les autres est de savoir cela et de l'accepter comme tel.
D'autres questions, et peut-être là de laisser Rabbi François repartir ce jeune être quand même. Il y a encore de la route à faire. C'est bien. Alors,
je vous remercie de votre attention.
C'était dense, hein. C'était puissant, c'était formidable. Et...